On fera un point sur la situation en Nouvelle-Calédonie avec chiffres et témoignages. Vous entendrez la procureure Solène Bellawar, Oscar Temaru, puis une prétendante à la couronne de Miss Tahiti. Le journal de 7h, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence par cette soirée difficile à Montréal.
Et notamment pour les services d'urgence de l'île Sœur. Entre 18h45 et 19h15 hier, trois pirogues V6 ont chaviré aux alentours de la passe de Afareitu. Au total, 17 rameurs se sont retrouvés en difficulté dans une mer très agitée, de nuit et sans gilet. Heureusement, des témoins ont pu prévenir depuis la côte le JRCC et une des victimes a pu nager jusqu'au bord pour donner une autre alerte. Résultat, un navire de pêche privé puis des moyens nautiques des Mouteuils sont rapidement arrivé sur place, suivi par un hélicoptère Dauphin. Côté terre, des pompiers et une brigade de gendarmerie se tenaient prêts. Tout le monde a ainsi pu être ramené à terre, mais un des rameurs est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. Les 16 autres victimes ont été prises en charge au centre hospitalier de Moorea pour des blessures légères.
Une grève qui commence à Tahiti Fa.
Et oui, le préavis est passé un peu inaperçu depuis vendredi, mais TNTV nous rappelle qu'il doit bien prendre effet ce matin et pour 4 jours. Il est signé de l'USAC CGT qui espère mobiliser une bonne partie des agents de la tour de Fa. Objectif, dénoncer le déclassement de la Polynésie dans une réforme nationale du contrôle aérien. Comme souvent, l'international et les Evazan devraient être épargnés par ce mouvement. En revanche, les départs en week-end et en vacances vont être perturbés au domestique. Les compagnies devraient faire leur annonce elles-mêmes aux passagers ce matin.
Direction la Nouvelle-Calédonie où les tensions perdurent.
Eh oui, mais la nuit a été visiblement un peu moins violente que les trois précédentes à Nouméa. Il faut dire qu'il ne reste plus beaucoup de magasins incendiés ou à piller dans la zone urbaine. Il faut dire aussi qu'hier, Paris avait déclaré l'état d'urgence et multiplié les annonces. Des militaires ont été déployés dans les ports et aéroports de l'archipel. Certains meneurs des émeutiers, ou en tout cas qui sont suspectés de l'être, ont été assignés à résidence. Le réseau social TikTok a été interdit et un pont aérien a même été mis en place avec la Tontuta, aéroport toujours fermé jusqu'à nouvel ordre. Des renforts devraient arriver. 2700 gendarmes et policiers sont mobilisés au total, d'après l'État, sans compter les nouvelles troupes de militaires. Du ravitaillement est aussi prévu pour les habitants et il sera le bienvenu après 4 jours de paralysie et de destruction dans le pays. Les émeutes, elles, ne sont pas complètement terminées. Le Haut-Saria estime à 9000 le nombre de participants. Pas de nouveaux décès côté manifestants, mais 3 policiers de la BAC ont été blessés par des tirs d'armes à feu. Un deuxième gendarme a aussi trouvé la mort, lui aussi par balle, mais après un tir accidentel d'un de ses collègues. On vous le disait hier, beaucoup de Calédoniens dans ce contexte doivent protéger eux-mêmes leur quartier. Témoignage avec cet habitant de Nouméa.
Les points d'entrée du quartier, on a levé des barrages et on est plusieurs à se relayer sur ces barrages pour éviter que des émeutiers rentrent dans notre quartier. On voit les flammes hein, pour certains endroits et des cris, des voitures qui passent en klaxonnant, des bruits de grenades assourdissantes côté force de l'ordre. On dort pas beaucoup et c'est vrai que c'est anxiogène, quoi.
Voilà la situation anxiogène qui se poursuit en Nouvelle-Calédonie où l'heure est tout de même au premier bilan. D'après la CCI et le MEDEF local, les 3 premières nuits d'émeute auraient fait pour 24 milliards de francs de dégâts. La centaine d'entreprises entièrement détruites représenterait 1500 à 2000 emplois. Beaucoup de chefs d'entreprise ont tenté de protéger ou de faire protéger leur site, mais c'était peine perdue. C'est ce qu'explique Alexandre Rodriguez, membre du bureau de la CPME calédonienne.
On a tous essayé à un moment donné de se dire qu'on allait essayer de garder notre outil de travail, mais malheureusement, face à la masse des émeutiers, personne n'a réussi à faire quoi que ce soit et on s'est vite résigné face à la situation particulièrement complexe qu'on vit et personne ne veut mettre sa vie en danger pour son outil de travail parce qu'on sait qu'on aura la capacité de reconstruire. On aura besoin quand même de l'aide de l'État et urgent et avec une certaine réactivité pour pas qu'on s'enlise dans ce marasme.
Voilà les patrons calédoniens qui demandent donc des aides immédiates et sur simple déclaration, ne serait-ce que pour garantir le paiement des salaires ce mois-ci. Ils demandent aussi à l'État d'avancer les remboursements d'assurance pour ne pas avoir à attendre pour lancer la reconstruction. Ce ne sera pas facile tant que les tensions politiques sont toujours là. Aucun accord n'est pour l'instant en vue entre les loyalistes et les indépendantistes et le projet de réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres doit toujours passer devant le congrès de Versailles. Ce sera d'ici la fin juin.
Et hier, Oscar Temaru s'est exprimé sur cette situation.
Et oui, le leader du Tavigny a tenu à apporter son soutien aux indépendantistes du FLNKS. Il condamne les violences, bien sûr, mais explique qu'elles étaient prévisibles et en impute l'entière responsabilité à l'État, pas seulement pour avoir joué avec le feu, avec cette réforme constitutionnelle refusée par les pro-Kanakis, mais plutôt pour avoir joué la montre avec les accords de Matignon de 1988 et de Nouméa 10 ans plus tard. Une façon pour le leader bleu-ciel de conforter finalement le Tavigny dans sa propre stratégie. D'abord l'accession à l'indépendance, ensuite la définition de la cohabitation. Le risque, explique-t-il, c'est sinon de redevenir minoritaire dans son propre pays. Oscar Temaro, qui considère que ceux qui demandent le droit de vote aujourd'hui, des résidents calédoniens installés depuis 10, 20, voire même 25 ans, ont toujours la possibilité, je cite, de retourner en France.
Et le leader bleu ciel, s'est aussi exprimé sur une polémique.
Oui, celle qui entoure un amendement déposé puis retiré lundi à l'Assemblée nationale, justement dans le cadre du texte sur la Nouvelle-Calédonie. L'amendement déposé par les trois députés Tavigny, plutôt que de parler du caillou, visait le fainéant, un cavalier, comme on l'appelle dans le jargon parlementaire, et qui proposait d'inscrire et de transférer de l'État au pays toutes les compétences sur les communes ainsi que les ressources financières correspondantes, et ce, de façon définitive. Une demande des Tavana polynésiens assurée dans le texte Ematei Le Gaïc, Steve Chaillou et Mereana Redarbelo, sauf que les Tavana et le SPC se sont empressés de démentir. L'amendement voulait aussi faire passer au milieu du débat l'idée d'une citoyenneté polynésienne, d'une élection du président du pays au suffrage universel direct, et même l'idée d'un référendum d'autodétermination qui serait fixé par le pays lui-même, une tentative de hold-up indigne, une mauvaise farce, a condamné le Tapoura. Oscar Temaro, lui, a préféré minimiser l'épisode et indique qu'il ne s'agit pas là d'un ordre du Tavigny.
Vous avez bien utilisé le terme sournoisement. Nous aussi, on a vu ça de cette façon-là. Et on s'est rencontrés pour leur dire voilà la position du Tavigny vis-à-vis du statut. Non, non, nous voulons une constitution. Et il faut mettre ça sur le dos de. Il faut que jeunesse se passe, comme on dit.
Il faut que jeunesse se passe, et c'est ce que déclare Oscar Temaro à propos de ces trois députés. Il était au micro de Caroline Perdri.
On reste en politique, Charlie, avec ces décisions du Conseil des ministres.
Oui, on en retenait au moins deux hier. La première, c'est ce projet de loi du pays validé sur la réduction des produits à usage unique. Après le texte entré en vigueur il y a 2 ans maintenant sur les sacs plastiques, il s'agit de s'attaquer aux autres emballages et la vaisselle jetable, suivant un calendrier qui va s'étirer jusqu'en 2028. Autre décision notable, l'ouverture des importations de cava sont jusqu'ici limitées aux médecins vétérinaires pharmaciens. La commande de cette plante aux effets psychotropes va pouvoir être possible pour tous les usagers. Certaines formes de cava devraient toutefois toujours justifier d'un certificat phytosanitaire.
Et puis on parle de cette grande première hier.
Et oui, la révolution, une petite révolution, celle de la dématérialisation. Il était temps, me direz-vous, ça se passe dans le milieu de la justice. Alors bien sûr, les policiers comme les gendarmes et les agents du tribunal utilisent depuis longtemps les moyens numériques, vous vous en doutez. Mais quand il s'agit de transmettre des documents officiels d'un acteur à l'autre, le papier reste jusqu'à présent la norme. On imprime, on signe à la main, on poste et on livre physiquement les procès-verbaux par exemple. Tout ça est sur le point de changer. Hier matin, en quelques clics, un officier de police judiciaire a complété et a envoyé la première procédure nativement numérique du fainéant, une procédure qui ne sera jamais inscrite sur papier. Elle a été constituée sur ordinateur par les policiers, signée électroniquement, et elle a rejoint le tribunal sous ce même format. Petite révolution, on l'a dit, qui va pour l'instant concerner les procédures classées sans suite. Elles sont très nombreuses, mais ce sera d'ici la fin de l'année prochaine toutes les procédures pénales qui seront dématérialisées. Fini donc les temps de classement, de recherche et d'envoi de documents au greffe, fini les pertes ou les retards de dossiers venant des îles, fini aussi les incertitudes sur les pièces manquantes, tout décentralisé. Pour Solène Bellaouar, la procédure numérique va permettre des gains de temps pour tout le monde.
Parce qu'on gagne du temps de transmission des procédures, parce qu'on gagne du temps d'agent de greffe chez nous. Ce temps gagné à ne pas numériser à la main ou à ne pas entrer des données à la main, bah c'est du temps gagné pour faire autre chose, donc pour développer d'autres services. Donc je pense qu'effectivement l'ensemble de la chaîne pénale et même l'ensemble du tribunal, puisqu'on fait des gains de temps d'agent, vont y gagner.
Voilà la procureure de la République, Solène Bellaouar, qui précise que du côté des justiciables, la seule différence notable avec cette dématérialisation, c'est qu'il faudra signer les procès-verbaux et autres documents officiels sur un pad plutôt qu'avec un stylo.
Et puis on finit comme souvent par les Miss.
Oui, les candidates de Miss Tahiti qui, vous le savez, sont sur nos plateaux tous les matins cette semaine. Hier, nous avons par exemple reçu Titari Hitchner, la jeune femme de 22 ans vit à Maina, à la pointe Vénus. Après avoir obtenu un diplôme dans l'enseignement l'an dernier, elle est aujourd'hui professeure des écoles. À ses heures perdues, Titari danse, elle est adepte du Holi Tahiti, mais surtout une grande passionnée de surf. Elle pratique ses disciplines Philippines depuis 6 ans aujourd'hui et de manière très régulière. Pour l'enseignante, Miss Tahiti, c'est avant tout un défi personnel. Écoutez.
Miss Tahiti n'a jamais été un rêve d'enfant. Dans mon groupe d'amis, lors des anniversaires, etc., j'étais celle à qui on ne disait pas qu'elle ferait Miss Tahiti. Toutes mes copines recevaient le compliment qui dit « Ah, tu fais une bonne Miss Tahiti, toi !» et pas moi. Et donc l'année dernière, à la fin de mes études, j'avais besoin de quelque chose qui allait me faire vivre pleinement et m'assumer, en fait. Et Miss Tahiti s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion. C'est un tremplin, mais c'est surtout un challenge personnel pour prouver à la petite Titari que tout est possible quand on s'en donne les moyens.
Titari Hitchner, candidate numéro 6 et qui n'est pas si petite, au micro de Veitia Perer. De ce matin, nous recevrons encore des candidates, encore une fois en direct sur Radio 1 et sur TLFM. Ce sera les candidates 7 et 8. Il s'agit de Maire Rauri Tae et Lia Fatuerei. Ce sera à partir donc de 8h sur Radio 1 et 8h15 sur TLFM. En attendant, il y a d'autres rendez-vous avec l'actu et notamment à 7h30 pour la revue de presse, à 8h pour le flash.
Merci beaucoup Charlie, on enchaîne avec la météo sur Radio 1.